Et maintenant, on va boire de l'eau potable avec toi, Julien, Julien B.
Est-ce que vous saviez qu'il faut 5 infos positives pour compenser une info négative? Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler de la pollution aux hydrocarbures qu'a touché la Mayenne il y a quelques jours. Je vous parlerai pas non plus du dernier rapport alarmant du WWF qui constate la disparition massive des invertébrés sur Terre. Et non, car ces derniers jours, il a plu et ça fait du bien. Et cette semaine, on va s'intéresser à l'eau potable, celle qui coule dans notre robinet. C'est pas magique ça, avoir de l'eau potable en abondance lorsqu'on ouvre le robinet, quand on allume la douche et même quand on tire la chasse d'eau.
Et justement, Julien, je me suis toujours demandé d'où est-ce qu'elle venait cette eau?
Eh bien, mon cher Pierre-Benoît, en fait, l'eau dans le Maine-et-Loire, elle est prélevée à la fois dans les rivières, mais aussi dans les nappes phréatiques. Par exemple, est-ce que vous saviez que l'eau qu'on boit à Angers est prélevée, entre autres, dans la Loire, au niveau des ponts de C? Et c'est la même eau qu'on retrouve dans la Loire et dans les nappes phréatiques.
Mais pourquoi?
En fait, une rivière, ça vit, ça bouge. On sait que la rivière, elle déborde en hiver, ça on le voit tous, hein. Chaque hiver, on voit les basses vallées angevines qui deviennent un immense lac. On appelle ça des connexions latérales. Ce qu'on sait moins, c'est que la rivière, elle communique très souvent avec la nappe phréatique. En clair, la goutte d'eau qui va tomber dans la rivière ou juste à côté, elle va s'infiltrer dans la nappe phréatique et recharger cette nappe. On appelle ça la connexion verticale. Et c'est une étape qui est essentielle au cycle de l'eau.
Et j'imagine que lorsqu'on construit des routes, des habitations dans des zones humides notamment, ça a un impact sur la manière dont les nappes vont se recharger, Julien.
Et oui, exactement. Lorsqu'on bétonne un milieu naturel, en fait, on va empêcher la goutte d'eau de s'infiltrer dans le sol et de recharger la nappe phréatique. Et par la même occasion, on va accélérer le ruissellement et accentuer les risques d'inondation. Car l'eau, en fait, elle va se déplacer beaucoup plus vite vers un même endroit. Alors pour compenser, on va créer des bassins de rétention. Mais en fait, lorsque ces bassins sont mal conçus ou mal positionnés, eh ben on peut se retrouver dans des situations catastrophiques.
Mais aujourd'hui, c'est fini, on construit plus dans les zones humides, c'est réglementé tout ça?
Alors oui, effectivement, c'est réglementé, mais il y a des zones constructibles et d'autres qui ne le sont pas. Enfin ça, c'est sur le papier, car en fait, dans les faits, eh bien on continue de bétonner un peu partout, et notamment sur les milieux humides.
Tous pourris, tous corrompus, c'est ça?
Non, bien sûr que non, mais en fait, pour avoir passé beaucoup de temps dans les commissions publiques à débattre de la définition des zones humides, je me suis rendu compte que les rapports de force sont souvent déséquilibrés. Et en fait, lorsqu'il y a un enjeu économique qui est fort, voire très fort, eh bien malheureusement, l'environnement passe très, très souvent au second plan. Et c'est à ce moment-là que les citoyens doivent se mobiliser pour défendre l'intérêt général par le biais des associations de protection de l'environnement.
Donc il faut éviter de bétonner à tout va. Ce que je trouve incroyable, c'est que l'eau qui arrive dans notre robinet vient en partie de la Loire, mais j'imagine que c'est contrôlé, la Loire, c'est pas super propre.
Ouais, alors évidemment, c'est contrôlé, on regarde de nombreux paramètres avant de l'envoyer dans les réseaux de distribution. Alors, il y en a deux qui vont vous parler, les nitrates et les pesticides.
Et alors?
Alors, on a des seuils qui sont respectés. En fait, les concentrations en nitrates ont baissé au cours des 10 dernières années, mais elles restent assez élevées. Et pour les pesticides, on est également sous le seuil. Mais toutes les eaux aujourd'hui sont contaminées de manière chronique.
Et c'est dû à quoi ça?
Les concentrations en nitrates et en pesticides sont dues à l'agriculture intensive. Alors, on est en train de vivre un changement assez important avec des tendances à l'agriculture biologique. Faut savoir que le Maine-et-Loire, aujourd'hui, c'est le 6e département en surface agricole consacrée au bio. Mais ça représente finalement que 10% de la surface totale. Alors il y a encore du chemin à faire.
Julien, dis-nous comment on peut faire pour améliorer les choses à notre échelle?
Eh bien, si on fait le choix de changer nos habitudes d'achat en privilégiant, par exemple, les productions locales, les circuits courts et le bio, on limitera l'utilisation d'intrants comme les pesticides et on améliorera la qualité de l'eau de notre robinet. En fait, c'est aussi simple que ça.
Alors justement, si je reviens sur l'eau potable, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque je bois de l'eau du robinet, je bois aussi un peu de pesticides?
Alors dans des quantités infimes, oui, mais il faut savoir que l'eau du robinet, elle respecte les seuils de potabilisation et cette eau n'a pas d'impact négatif sur notre santé. Surtout que la qualité de l'eau du robinet s'est nettement améliorée durant les 10 dernières années. Donc on va dans la bonne direction.
Sachant ça, moi, je vais plutôt boire de l'eau en bouteille, je pense que c'est plus sûr pour ma santé.
Alors Pierre-Benoît, c'est une excellente idée, surtout si tu souhaites également boire un petit peu de plastique. Car il faut savoir que 80% des eaux en bouteille contiennent des microparticules de plastique. Si on ajoute à cela l'impact de l'emballage, du transport et le fait que les principaux distributeurs d'eau en bouteille assèchent les nappes pour produire toujours plus, eh bien on se retrouve face à l'une des plus belles aberrations de notre société moderne. Faire venir l'eau plastifiée de l'autre bout de la France, alors qu'on a de l'eau potable à notre robinet. Et je vous ai pas encore parlé du prix.
Et parce que c'est un coût. Ça coûte combien l'eau du robinet, Julien ?
Alors l'eau du robinet, ça coûte environ 0,2 centimes du litre, contre 20 centimes pour de l'eau en bouteille. En fait, l'eau en bouteille est 100 fois plus chère que l'eau du robinet. C'est pas complètement fou, ça ?
Ouais, mais moi, ce qui me dérange le plus avec l'eau du robinet, c'est, tu sais, cette odeur de chlore.
Oui, oui, alors ça, en fait, c'est dû au traitement. Faut savoir que l'eau qui arrive à notre robinet, elle est traitée. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chlore, eh bien, ça s'évapore rapidement. Alors, si vous attendez un petit peu avant de boire l'eau, ou mieux, si vous la brassez légèrement, vous verrez que le goût de chlore va disparaître.
Est-ce qu'on peut encore trouver une eau totalement pure en France, peut-être dans les montagnes?
Oui, exactement. Alors, il faut s'éloigner aujourd'hui de toute civilisation. Alors, c'est marrant parce que la semaine dernière, je suis allé faire un saut en Tarentaise, dans les Alpes, pas loin de Bourg-Saint-Maurice. Et je suis allé me perdre dans la vallée des glaciers. Et en fait, il y avait, mais personne, à part quelques vaches. Et je suis monté à 2200 mètres d'altitude après quelques heures de marche. Il commençait à neiger. Et je me suis assis au bord d'une cascade et j'ai rempli ma gourde. Et je pense que l'eau était totalement pure. Elle avait un goût vraiment incroyable.
Donc, Julien, si je résume, pour protéger la ressource en eau, on mange local et raisonné, on fait attention à ne pas acheter une maison construite sur une zone humide, on boit de l'eau du robinet et on se fait des petits plaisirs de temps en temps, de temps à autre, en montagne pour aller boire de l'eau pure, à condition qu'il n'y ait pas une bête qui soit morte dans le ruisseau un peu plus haut. Quand même.
Tout à fait, il faut toujours monter au-dessus des bêtes pour être sûr que l'eau est bien potable. Mais on n'oublie pas non plus de brancher son cerveau sur du positif. Car n'oubliez pas, votre cerveau a besoin de 5 infos positives pour compenser une info négative. Et pour en savoir plus sur la qualité de l'eau du robinet, moi je vous invite à consulter l'excellent site de l'Observatoire de l'eau du Maine-et-Loire, eau-maine-et-loire.fr. Et n'oubliez pas de vous hydrater, c'est bon pour la santé.